Europe 1, musique.
Stéphanie Loire.
Bonsoir et bienvenue sur Europe 1. Si vous venez de nous rejoindre, si vous venez de monter en voiture et d'allumer votre radio, surtout, on va passer une bonne soirée ensemble jusqu'à 22h. Alors c'est musique qui démarre dans une version estivale et ce soir, je vous propose une émission un petit peu particulière puisque le 24 avril dernier, j'ai eu l'immense plaisir de recevoir le groupe Louise Attack qui se reformait pour célébrer les 25 ans de leur tout premier album légendaire. Une émission spéciale en présence des membres historiques du groupe, Gaëtan Roussel bien sûr, mais aussi le bassiste Robin Fex, le violoniste Arnaud Samuel et même Marc Tonon, le producteur qui a décelé le talent de Louise Attack dès les débuts. Alors au milieu de cette émission, il y aura des tubes en live s'il vous plaît, les secrets de fabrication de ce premier album rentré dans le cœur des Français et bien d'autres surprises encore que je vous propose tout de suite de redécouvrir, de plonger au cœur de cette émission spéciale, évidemment sur Europe 1.
Europe 1. Musique.
Stéphanie Loire.
Allez viens, je t'emmène au vent. Je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel.
Et peut-être même que vous allez pouvoir l'entendre en live, ce titre sur Europe 1. Bonjour Louise Attack.
Bonjour.
Oh, c'est bien au cœur, ils sont là. Je suis ravie de passer un moment avec vous. Puis alors, il y a Gaëtan Roussel, Arnaud Samuel, Robin Fex. Et puis un autre invité qui a un rôle très important dans cette partition Louise Attack, c'est Marc Tonon, l'homme qui vous a repéré et qui a décidé de vous produire au début, c'est ça ?
Exactement, c'est exactement ça. C'est l'homme qui est venu en répétition écouter nos chansons. On jouait toutes beaucoup trop vite et il était adorable. Il nous applaudissait à chaque fin de chanson. L'encouragement était déjà là.
Bonjour Marc Tonon.
Bonjour.
Bienvenue sur Europe 1.
Merci.
Bon, ces histoires, j'imagine qu'il y en a beaucoup autour de cet album. Quelle aventure, 25 ans. Vous allez nous raconter ça, on va en parler. Très très belle aventure. Alors on va passer une heure. Une heure, c'est assez court. On va essayer de savourer chaque seconde. On va traverser l'aventure de votre premier album, Louise Attack. Alors, je vous propose, avant d'aller plus loin, on fait une petite mise en bouche pour les auditeurs d'Europe 1 de cet album qu'on connaît tous par cœur, sur lequel on a tous des souvenirs. Un petit medley, Louise Attack, ça donne ça.
Léa, elle n'est pas terroriste, elle n'est pas antiterroriste, elle n'est pas intégriste, elle n'est pas seule sur Terre, elle n'est pas méchante, mais putain qu'est-ce qu'elle est chiante. Léa, elle est pas terroriste. Ah, le sourire de dépression, ça c'est quand, quand ça vous prend là, ça vous colle au corps, ça vous gratte partout tout le temps. Et vous, est-ce que vous avez le temps de prendre un café au port? C'est là que j'habite vraiment et tant pis pour le confort là-bas. J'ai accepté par erreur ton invitation. J'ai dû gourer dans l'heure, j'ai dû me planter dans la saison. T'emmener haut, te saluer bas, chanter des chansons, chanter tout bas notre amour pour les quatre saisons. Je voudrais que tu m'appelles plus souvent, que tu prennes parfois le vent. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Toi amour mon père et je ne sais pas comment. Toi amour ma mère et tous ses sentiments. Toi amour mon frère et ma sœur évidemment. Toi amour serait-ce un jeu d'enfant à crier tout le temps.
C'est bon, ça fait du bien d'entendre tous ces tubes, on ne s'en lasse pas. J'ai l'impression que ça va marcher, j'ai du pif, je vous le dis.
Il en manque,
on a dû faire des choix, on n'est pas à l'Élysée Montmartre encore. Hein. Et puis moi j'ai envie de profiter un petit peu du fait que vous soyez là pour en connaître l'histoire de cette aventure et puis de la présence aussi de Marc Tonon qui fait partie de l'histoire. Alors on va voyager dans le temps en 97, quand vous avez découvert Louise Attack, Marc Tonon, c'était où ?
Alors, en l'occurrence, c'est en 96.
Pardon, la précision bah non, des dates.
Forcément, parce à la Lamarck, il est imbattable. Et à la minute près.
Moi, je les ai découverts en septembre 96. J'étais membre d'un jury qui est un concours de groupe de rock qui a encore lieu chaque année. Il s'appelle le FER, le Fonds d'Action pour l'Initiative Rock. Et on est 15 membres de jury tournant chaque année qui reçoivent pendant l'été environ, à l'époque, c'était des cassettes. On avait, je crois, 200 cassettes. Avec deux titres par groupe et un groupe par face de cassette. Donc chaque juré doit parrainer un artiste et dans le lot, il y avait Louise Attaque. Alors pourquoi je suis tombé sur... Je vous jure que j'ai tout écouté. J'avais repéré 3 ou 4 artistes et Louise Attaque, pourquoi le nom m'avait interpellé. Et puis quand j'ai mis dans ma voiture, parce que j'écoutais beaucoup j'écoute toujours beaucoup dans ma voiture, j'adore ça.
Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus des cassettes.
Non,
ça revient. Même,
c'est compliqué. Mais pas dans les voitures. Et quand j'écoutais, c'était évident que ça ne sonnait comme personne d'autre, que c'était incroyable, qu'il y avait une personnalité, qu'il y avait une voix, qu'il y avait une écriture. On ne pouvait pas passer à côté. On m'a souvent posé la question au moment où ça a marché, mais pourquoi est-ce que ça marche? Et ma seule réponse, c'était, mais est-ce que vous avez écouté le disque? Et honnêtement, on était très loin des standards de l'époque. À l'époque, c'était Ménélique, la première vague de rap un peu commercial, c'était les boys band. C'était à contre-courant total, mais c'était tellement évident parce que c'était des chansons accessibles, énergiques, sincères. C'était des chansons qu'on connaît.
Voilà, projet de l'imposture, on a ceux qui parlent de ce qu'ils font, ça c'est dur. Avec ceux qui sont nés pour faire ça, c'est sûr, c'est cela qui nous mène la vie dure.
Europe 1, musique, Stéphanie Loire.
Dans le même style de l'imposteur, on a ceux qui pensent avoir du cœur, une tête, une âme de voyageur. Et trop de mélange, ça, c'est des couleurs.
Et pourtant, au début, vous n'aviez pas du tout le soutien des médias, vous n'étiez pas joué en radio, vous êtes construit sur la scène. Vous avez eu un coup de cœur en les écoutant. Après, c'est quoi l'étape? Vous allez les voir, vous leur dites, les gars, moi je veux vous signer.
Alors, j'étais pas le premier, il faut rendre à César. Il y avait eu deux personnes qui avaient fait tourner avant moi, Julien et Yann.
Et Yann Gazi, de la belle édition via Yann Gazi.
Absolument. Voilà. Et moi je connaissais Yann, et quand je les ai découverts dans le concours en question, pour l'anecdote, je les ai pas parrainés parce que j'avais la trouille que si je les parraine, tout le monde le sache et qu'on vienne me piquer le plan.
Heureusement que tu le dis, parce que j'allais le dire, moi.
C'est vrai.
Moi je me rappelle.
Mais non, mais quand vous tombez sur une pépite, vous n'allez pas la mettre en avant devant tous vos collègues. C'est le genre de concours dont tout le monde regarde les résultats le lendemain. Et donc, j'ai appelé Yann le lendemain, on s'est rencontrés avec le groupe, on a signé dans la foulée.
Donc très vite, ouais.
Et on a enregistré. Vous avez enregistré plus que moi. Il valait mieux. En février, c'était en février 97. Donc on s'est rencontrés en septembre, on a dû signer en novembre et vous avez enregistré en février. Et l'album est sorti en avril.
Entre le moment où vous les découvrez, le moment où vous enregistrez, il y a eu un travail qui s'est opéré ou vous étiez un diamant brut, on vous a gardé tel quel?
On nous a aidé à continuer à travailler et à essayer d'enregistrer ce qu'on était en train de faire et qu'on faisait beaucoup dans des toutes petites salles et dans des bars même. Donc c'est là où c'est une chance d'avoir rencontré Marc Tonon. C'est que Marc, il nous a signé parce que il a eu un coup de cœur. Ça, c'était une chance pour nous. Et il a pas voulu nous modifier. Après, il y a toujours des petites discussions ici et là qui viennent. Est-ce que c'est ce titre? Est-ce que c'est ce titre? Mais sur le moment et tout ce qui est fond et âme de ce qu'on essayait de faire, il nous l'a préservé. Et sans partir dans plein d'anecdotes, ce qui était beau, c'est que...
Si, on est là pour ça.
Marc a raison, on avait quelques idées. On en avait deux en particulier. C'était travailler avec un chanteur américain qui était le chanteur et qui est toujours le chanteur des Violent Femmes, qui était un petit peu notre groupe phare et les gens qu'on regardait. On s'est inspiré énormément de leur son acoustique, de leur manière de jouer.
On a un extrait de Violent Femmes pour que les auditeurs perçoivent un peu cette identité
très
sonore. Filiation, en effet.
Ah oui,
on
totalement
quelque
assumé.
Chose de cohérent.
Mais c'est une chance parce que comme c'est le chanteur qui est venu nous produire, on avait comme l'impression qu'on avait le droit, oui. Qu'on était un peu adoubé.
C'est purement légitime. Donc ce chanteur, c'est Gordon Gano.
Gordon Gano. Et la deuxième chose qu'on voulait, c'était enregistrer dans un studio à Bruxelles, à ICP, parce qu'on voyait plein de disques sortir et qu'on aimait beaucoup, qui venaient de là-bas. Donc on a droit à des petits rêves, et ce qui était super, c'est que Marc a décroché son téléphone tout de suite, parce qu'il s'avère que c'est un ami du patron du studio en question. Donc nous, on vivait un rêve éveillé. Et le, deux jours après, on avait un rendez-vous téléphonique avec le chanteur Gordon Gano. Donc, tout de suite, il n'a pas cherché à nous mettre à tel et tel endroit. Il a essayé de nous aider à essayer de vivre et à rêver, à continuer à rêver. Il nous a aidé à ça. Et ça, c'est précieux.
Marc Thonon, c'est ça le rôle d'un producteur ?
Bah oui, c'est de ne pas trahir ce que l'artiste est. Et c'est de l'aider à faire en sorte qu'il soit ce qu'il est, mais puissance 10. Alors, un disque, ce n'est pas un concert. C'est toujours des moments, des émotions différentes. Mais il faut pas trahir ce qu'on a aimé non plus. J'ai coutume de dire qu'un directeur artistique ou un producteur, c'est le premier fan du groupe. Alors, on ne peut pas ne pas respecter ça. À partir du moment où je les ai entendus, pour l'anecdote, j'étais un petit label indépendant, j'avais deux personnes qui travaillaient avec moi, et puis j'avais un associé qui était un monsieur à qui je me permets de rendre hommage, qui s'appelle Régis Tallard, qui était le producteur de Michel Sardou, qui est un monsieur qui, jusqu'au bout, malheureusement, il n'est plus là aujourd'hui, mais avait un enthousiasme pour ce métier, une oreille incroyable. Et moi, j'étais comme un fou quand ils sont revenus avec « Je t'emmène au vent ». C'est pas les premières chansons que j'ai entendues. Je faisais pas partie de la première série. Mais quand « Je t'emmène au vent » est arrivé, c'était d'une évidence. Et comme un fou, je suis allé dans son bureau rencontrer quelqu'un qui travaillait avec moi. Et je pensais, il était 20h, qu'il n'y avait personne dans le bureau. Et Régis est monté en disant « Mais c'est quoi cette musique ? C'est génial !» Donc, quelle que soit la génération, c'était évident tout de suite pour ceux qui avaient un amour de la musique.
Alors, il y a quelque chose d'organique, il y a un engagement physique, il y a quelque chose qui fonctionne tout de suite. Être un producteur, c'est avant d'accompagner un artiste, avant de lui permettre de jouer dans des grandes salles et dans des beaux studios, c'est avoir une oreille et se faire confiance à cette oreille-là.
Je sais pas, il faut leur demander.
Je sais pas, parce que nous, c'est pas notre métier, mais quand on a rencontré Marc Thonon, on a rencontré quelqu'un de passionné. Et puis on a un point commun, c'est qu'il venait, Marc venait de différents labels, plutôt gros labels, où il était directeur artistique, et là, il venait de monter sa boîte. Donc nous, on enregistre notre premier disque, et toi, c'était presque le premier disque, ouais, presque, pas tout à fait, mais que tu produisais. On était le deuxième artiste, mes souvenirs sont bons à signer. Le premier, c'était le chanteur des Satellites, Polo, et il nous a signé après. Donc on avait en commun ce petit goût de la première fois d'y aller. On appelle une maison de disques, et là c'était une maison de disques, c'était une vraie maison aussi.
On a vécu l'aventure ensemble en fait, toi pour ta boîte et nous pour le groupe.
On a grandi ensemble. C'était même un appartement de disques, hein, c'était pas une maison de disques.
Chic, alors là on adorait lui rendre visite, c'était super beau.
Arnaud Samuel disait que vous aviez grandi ensemble. On va traverser encore cette trajectoire, cette chronologie de Louise Attaque sur Europe 1. Je vous propose qu'on écoute aussi du Louise Attaque, parce qu'en parler c'est bien, mais en entendre c'est encore mieux. On démarre avec Savoir qui est sur l'album, ça vous va?
Super.
Allez, on écoute Savoir, c'est Louise Attaque sur Europe 1.
Stéphanie Loire.
Et sur Europe 1 aujourd'hui, et c'est une émission spéciale de fête pour célébrer les 25 ans d'un album légendaire, celui de Louise Attaque. Le plaisir est toujours intact. Vous parliez de plaisir, Robin Fex. Le plaisir de jouer ensemble, le plaisir de jouer ces titres-là qui vous accompagnent depuis 25 ans, qui font partie de l'histoire collective des Français.
Bien sûr, c'est un plaisir de les jouer, c'est notre colonne vertébrale, c'est comme ça qu'on est né, c'est comme ça que depuis 25 ans on peut soit ensemble, soit chacun de notre côté faire de la musique, vivre d'autres aventures, revenir, échanger dessus, voilà, 25 ans c'est long et c'est vraiment un plaisir et ça n'est un aussi parce que, je reviens à ce qu'on se disait tout à l'heure, Marc nous a aidés à faire ce qu'on souhaitait faire. Donc on a fait ce qu'on souhaitait faire et on est toujours heureux de les jouer, on les joue avec les mêmes instruments, c'est ce qui nous plaît, c'est ce qui nous a défini.
Vous n'avez jamais cessé de les jouer, ces chansons-là, sur scène ?
Il y a
un petit quoi ?
Alors Marc Thonon voulait préciser que
j'ai le droit ou...
C'est quoi le petit quoi, Marc Thonon ?
De vérité. En fait, au moment du deuxième album, il faut se souvenir que ça a pris, comme vous le disiez, beaucoup de temps. Alors il y a eu des médias très rapidement. mais pas les grands médias. Il y a eu toutes les petites radios associatives un peu partout. Il y a eu quelques grandes radios périphériques, dont je pense Europe 1 à l'époque.
Toujours sur les bons coups.
Et puis il y a eu un clip qui a permis d'eux. Mais grosso modo, le groupe était traité avec un peu de condescendance. Hein. Dans la presse écrite, il y a même eu des mots pas très sympas.
Du genre quoi ?
Ah ben, on peut le dire aussi.
Il y a
un journaliste qui a expliqué que Louise Attaque faisait du rock patate faillot.
Bah, ça veut dire quoi ça ?
Il faudra lui demander.
On lui a livré des patates faillot, par contre. Je ne sais plus combien de kilos, mais je crois, tu te rappelles, ouais,
sûr,
10 kilos, je crois.
Très bien cuisiné, mais pas.
Oui, ils étaient bons. Hein.
C'est génial.
Ah oui, on avait goûté avant, on ne veut pas
c'était
n'importe quoi.
C'était pour les
Arocs. Hein. Ah ben, on salue les Arocs, et puis on salue.
Non, mais en plus, cette histoire, elle était délicate, parce qu'en plus, c'était dans la chronique de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Si, c'est qu'il y avait une chronique positive d'un artiste, et la fin de cet article disait c'est pas comme les hymnes patates faillot de Louise Attaque. C'était un peu gratuit. En plus, c'était va. On s'est dit non, dis-le sur nous, dis-le pas sur la colonne d'à côté.
Et donc, ce qui s'est passé, c'est que quand ça a commencé à fonctionner, tous les journalistes qui se pinçaient un peu le nez au début sont revenus en leur posant la question parlez-nous du phénomène Louise Attaque. Alors, évidemment. Eux, ils avaient envie de parler de leur musique et pas du phénomène Louise Attaque. Et donc, en gros, c'était le retour de service. Bah, c'est vous, les journalistes, si un phénomène, parlez-en. Et puis, c'est quand même, ils ont fait des concerts. Je ne sais plus si vous avez le chiffre en tête, mais c'était monstrueux. Ils étaient sur la route en permanence pendant des mois. La tournée, elle a duré presque 2 ans, je crois.
Hein. Oh, je pense, oui.
Quelle histoire.
Et donc, au moment du deuxième album... Il y a eu une petite envie d'être connu pour autre chose que pour Je t'emmène au vent. Et en début de tournée, ils ont décidé de ne pas jouer Je t'emmène au vent. Et moi, j'ai fait la connerie. J'avais un joli badge Louise Attaque près de la table de mixage. Je me suis fait agresser par des gens du public. Mais c'est quoi ce groupe qui joue pas son tube ? C'est pas possible.
Mais il faut préciser dans ces cas-là, si on va jusqu'au bout des précisions, qu'on avait décidé de jouer. Et ça nous arrivait en particulier au Québec. Aussi au début, et on jouait tout notre deuxième album, donc nous on avait l'impression qu'on donnait quelque chose et on n'avait pas la présence d'esprit de se dire que les gens voulaient aussi ce qu'ils connaissaient déjà, et ça c'est humain, et puis mais par contre c'est un petit peu bête, il faut être honnête, et voilà, et on l'a rectifié
non,
assez vite,
c'est mignon,
c'est voilà, c'est voilà, ouais, bon, on était jeunes.
Une belle histoire sortie de ma tête par hasard, sortie d'un livre rouge et noir. Elle aime le rouge et le noir. Je voudrais bien la revoir. Car toute cette histoire est bien ancrée dans ma mémoire. Et si quelqu'un vient s'emmêler, je crois que je vais craquer. Car toute cette histoire.
Et toute cette histoire, c'est celle de Louise Attaque et de cette formidable aventure qui dure depuis 25 ans qu'on est en train d'évoquer, cet album-là. Alors justement, Marc Thonon, mettez le doigt sur quelque chose d'intéressant. Vous êtes des musiciens, vous l'avez toujours été, mais cet album, il vous a fait passer de statut de musicien qui joue dans des petits bars puis dans des grandes salles à phénomène. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, Louise Attaque, en tant que groupe, ou pour vous, par exemple, Arnaud Samuel ?
On ne s'est jamais considéré comme des phénomènes. Nous, on voulait, par contre... faire grandir notre groupe, c'est-à-dire jouer dans pas mal d'endroits le plus possible, donner nos nouveaux morceaux à notre public, dans quel que soit l'endroit pour le coup, que ce soit des petites salles, puis ensuite des salles plus grandes. Mais on ne s'est jamais considéré comme tel. De toute façon, c'est toujours difficile de faire cette musique avec des instruments acoustiques, dans des conditions comme ça de rock et tout. Ce n'est pas simple en réalité. Et donc on était plutôt humble, hein, à essayer de jouer le mieux possible. Chaque jour.
Dans quel état d'esprit vous étiez il y a 25 ans ? Quand vous aviez 25 ans, grosso modo ? C'est ça ?
Grosso modo.
Grosso modo. Grosso modo.
On ne va pas rentrer dans les détails.
Joker.
Quand Louise Attaque est née, avant que Marc Thonon n'arrive dans la boucle, avant que le public soit là, vous, c'était quoi l'objectif de vie ? Faire de la musique, tout simplement.
Des concerts, partir sur les routes. On avait eu un groupe avant, avec Robin, qui est le bassiste et qui dessine la Louise. Nous, on se connaît depuis très longtemps et on avait un groupe avant. Arnaud avait son groupe, on ne se connaissait pas de son côté. Et ça avait été des balbutiements pas très simples. On n'arrivait pas, on avait essayé de trouver chacun de notre côté, encore une fois, des maisons de disques, des partenaires, des gens avec qui travailler. Ça n'avait pas été convaincant, on ne devait pas être convaincant. Et donc, quand on a commencé Louise Attaque, on ne voulait pas spécialement... aller vers les maisons de disques, essayer de trouver un contrat. Tout le monde courait après un contrat. On en avait envie, mais on s'est dit, on va faire autrement avec cette micro-expérience qu'on venait d'avoir. Et on est parti sur les routes. Donc, on s'est donné les moyens de partir sur les routes. Et c'est ça qu'on voulait faire, vraiment, vraiment. Et petit à petit, on a eu la chance de rencontrer Yann Gazi, comme on disait, et puis Marc. Donc, notre envie, c'était la scène. On ne pensait pas studio à l'époque, pas enregistrement.
C'était la scène et puis la petite fête après la scène aussi.
La fête, alors ça c'est important comme mot, bah, Robin Fex. Oui, oui. La fête parce qu'un album comme celui-ci, c'est un album hyper festif. C'est-à-dire même quand on l'entend là dans un studio de radio, on va l'entendre en live. On est obligé de bouger, de taper du pied au minimum, vraiment, hein, si on est fatigué. Mais sinon on prend feu. La fête, vous l'avez faite beaucoup, j'imagine.
Oui.
Ah, bon, non, mais alors,
c'est pire que ça.
Ils veulent pas lâcher les dossiers. Vous savez quoi? Mais...
non, mais...
Préparez-vous.
On a des images. Ah, mais on a la radio.
Préparez-vous. On va vous raconter ce qui se passait après les concerts de Louise Attaque, parce que visiblement, il se passait beaucoup de choses. Mais avant ça, on va écouter Louise Attaque en live. Le premier live de cette émission spéciale. C'est un titre très fort de cet album. C'est Je t'emmène au vent. Je vous laisse vous installer et nous, on vous écoute sur Europe 1.
Ok. Eh bien, je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus des gens, et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps.
Louise Attaque en live dans Studio d'Europe 1, Je t'emmène au vent sur cet album qui célèbre ses 25 ans. D'ailleurs, la raison pour laquelle on fait cette émission spéciale aujourd'hui avec tout le groupe, Gaëtan Roussel, Arnaud Samuel, Robin Fex, Marc Tonon, tout le monde est là.
Europe 1, musique. Stéphanie Loire.
On était en train de parler d'un sujet qui m'intéresse vachement, c'est la fête autour de la musique, la fête après les concerts, la fête avant les concerts. Et Marc Tonon, votre producteur historique, s'apprêtait à lâcher un dossier. Et non. Je n'ai pas oublié.
Ah non, c'est pas un gros dossier, c'est la générosité de ce groupe qui était hallucinant. C'est-à-dire qu'ils faisaient un concert de, je sais pas, une heure et demie, parce que non seulement ils jouaient vite, mais ils n'avaient pas un énorme répertoire. ils se prenaient une petite douche ou pas, j'ai jamais su. Et puis, après, il retrouvait dans les salles le public et ça discutait avec le public, ça buvait des coups, ça passait des disques, parfois jusqu'à pas d'heure. Moi, j'ai souvenir à Dijon, entre autres, d'un redémarrage de tournée où ils ont fait le tour d'horloge. Toute la nuit jusqu'au.
Et moi, pour vérifier.
et moi, à un moment, je devais repartir bosser parce que j'avais aussi d'autres artistes et puis j'avais pas le même métier. Je suis allé me coucher 2 heures avec mon camarade Laurent qui m'accompagnait, qui faisait le marketing. Et une heure et demie après, on s'est relevé pour prendre le petit déjeuner à l'hôtel et nous on était au café, eux ils étaient encore avec les...
Est-ce que ça va se passer comme ça après la journée de concert du 26 où ce sera plus sage?
Ah, ça risque d'être plus sage.
On n'a pas le choix, à vrai dire.
C'est Robin Fex qui dit que vous n'avez pas le choix. Pourquoi vous n'avez pas le choix?
Parce qu'on est vieux maintenant.
Le temps
25
passe.
Ans, c'est rien. C'est comme le capital solaire, hein, on a utilisé un peu.
Moi, je pense que c'est une des parties du succès du groupe, c'est leur générosité, parce que le contact avec leur public, il était incroyable. On a reçu, on avait mis des petites fiches, alors il n'y avait pas encore d'internet, de machin, mais on a mis des petites fiches dans les albums. On a reçu 80 000 fiches à un moment, on n'arrivait pas à gérer, c'était pas possible. Parce que eux étaient vraiment d'une gentillesse, ils étaient accessibles, ils discutaient avec les gens.
Ils le sont toujours.
Mais oui, c'est ça aussi qui explique, au-delà de la musique, c'est l'attitude et les personnes.
Vous avez l'heure, s'il vous plaît, je suis là pour l'appartement. Moi j'investis dans l'immobilier, je prends des engagements, je voudrais connaître le prix. Savoir le confort, comme on dit, j'en ai envie, je veux plus habiter au port. Là.
Alors, le violon, il a une place à part dans votre groupe. La rencontre du violon et du rock, elle s'est jouée comment, Arnaud Samuel?
En fait, comme Gaëtan et Robin l'expliquaient tout à l'heure, ils avaient leur propre groupe de leur côté et ils étaient en train de se transformer pour changer de groupe. Ils avaient abandonné leurs instruments électriques pour passer à l'acoustique. Et à cette occasion, ils ont déposé une annonce pour chercher un violoniste. C'était une volonté de leur part d'accompagner leur mutation vers l'acoustique d'un instrument supplémentaire qui, en quelque sorte, remplaçait la guitare électrique solo. On peut dire ça comme ça, mais après, qui est devenu autre chose, qui est devenu un contre-champ par rapport à la voix de Gaëtan. Et ça, c'est des choses qu'on a trouvées ensemble. Et après cette annonce, je suis tombé sur Robin, qui m'a dit bon, on répète demain et si tu veux tu viens et tu t'essayes avec nous.
L'appartement, moi j'investis dans l'immobilier. Je prends des engagements, je voudrais connaître le prix, je voudrais savoir le confort, comme on dit, j'en ai envie. Je n'ai plus habité au port et le sourire de dépression.
Et là, on a trouvé cette alchimie, cet emboîtement avec aussi le batteur de l'époque, Alexandre Margraff. Et assez vite, je me suis dit, mais tiens, en fait, il y a tout ce que j'aime là. Il y avait la caisse claire frappée avec les balais, il y avait la basse acoustique de Robin, il y avait la guitare et surtout la voix de Gaëtan et ses textes qui sonnaient très rock, c'est-à-dire qu'il arrivait à écrire en français et de telle sorte que ça puisse vraiment s'emboîter dans la musique et faire comme le rock qu'on aimait anglo-saxon, mais par contre en français.
Café au port, c'est la gravité, vraiment étampé pour le confort.
On va écouter Léa, tiens voilà, tout simplement, comme ça on pourra boire un peu d'eau, de l'eau je précise, rien d'autre.
Il n'y a pas de violon.
Et on continue cette émission spéciale Louise Attaque sur Europe 1.
Léa, elle n'est pas terroriste, elle n'est pas antiterroriste, elle n'est pas intégriste, elle n'est pas seule sur terre, elle n'est pas commode, non, elle n'est pas commode, elle n'est pas froide. Elle est pas chiote pour une nuit réaliste. Elle est pas créditeur. Elle est pas méchante. Mais putain, qu'est-ce qu'elle est chiante.
Europe 1, musique. Stéphanie Loire.
On est sur Europe 1 ensemble, c'est une émission de musique spéciale avec Louise Attaque. Tout le groupe est là, Gaëtan Roussel, Arnaud Samuel, Robin Fex et même le producteur Marc Tonon. On revient sur l'origine de cet album, son histoire, des anecdotes autour. Et d'ailleurs, je voulais vous demander, en 97-98, quand l'album sort, vous êtes en tournée, vous êtes sur scène, votre notoriété, elle ne cesse de grandir. Comment ça marchait avant Internet? Est-ce que, par exemple, les gens se parlaient, c'est ça, Gaëtan Roussel?
Il y avait du bouche à oreille, puisqu'on retrouvait, on faisait souvent la tournée de quelques petites salles parisiennes et un peu ailleurs, et si on faisait une tournée parisienne, par exemple, de 3 dates sur 15 jours, on retrouvait des gens qui étaient à la première date, qui venaient avec d'autres gens à la deuxième, donc on tissait petit à petit un peu de fidélité. Et puis pareil quand on retournait dans tel endroit, donc ça se tissait petit à petit, comme ça, vraiment.
Peut-être
vraiment
aussi grâce aux radios associatives qui jouaient ce rôle-là, peut-être aussi.
Oui, et puis quelques.
C'était pas Internet, mais c'était déjà aussi d'autres réseaux que simplement le.
On avait des petits points d'appui et petit à petit ça a créé un peu de fidélité.
Des concerts, il y en a eu beaucoup, des tournées, il y en a eu beaucoup. Les tournées, c'est aussi parfois des galères, j'imagine. D'ailleurs, je vous ai vu sur scène à Rock the Peace, vous racontiez le vol d'un van ou de votre matériel ou de votre sono. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi l'histoire?
Les premiers pas, c'est ce que je raconte, parce que j'explique qu'au début, maintenant on est en tourbus, on dort, on s'endort dans une ville, on se réveille dans une autre, mais qu'au début c'est pas comme ça. Et nous, on s'est fait piquer tout notre matériel en Italie. En Italie, c'était une très belle tournée, mais sans matériel. Et on s'est fait piquer notre camion aussi, donc des mésaventures, il y en a ici et là, bien sûr.
Et ça apprend le métier, ça fait partie de la vie.
Exactement.
Louise Attaque, ce sont des titres de fête. On parlait de la fête tout à l'heure, comme par exemple La Brune.
Hier soir j'ai flashé sur la brune. Hier soir j'ai navigué dans la brume. On est allé sur les quais sans lasser. Ce matin c'est donne-toi la peine de me regarder. Fais donc l'effort de te retourner. J'ai tant de peine à te regarder. Mais m'éloigner de vous, je voudrais.
Est-ce qu'avec tout ce succès qu'il y a eu, puisqu'on parle de disques d'or, on parle de millions d'albums vendus, à un moment donné, vous avez eu la tête qui tournait, vous avez un peu perdu pied, ou vous êtes toujours bien resté accroché sur le sol?
Ça a dû vibrer fort à des moments donnés. Ça n'a pas été simple de faire un deuxième disque, ça n'a pas été simple de savoir comment le défendre, des choses comme ça. C'est humain et on les a croisés, bien évidemment. Et puis d'ailleurs, à la sortie de la tournée de notre deuxième disque, on a voulu re-rentrer en studio et on n'a pas réussi. Et la chance qu'on avait, c'est que comme on avait un passeport énorme de liberté avec ce premier album à tous les niveaux. On a eu la possibilité, ce qui n'est pas possible pour tout le monde et c'est une vraie chance, de ne pas le sortir ce disque.
Voilà,
on n'a pas le, normalement, il faut aller au travail. Là, on avait cette chance-là. On a essayé d'être à la hauteur. Donc, c'est une chance aussi d'avoir au départ quelque chose qui résonne énormément. Donc, des tournées en rond, on l'a fait, bien sûr. Et puis, moins se parler, on l'a fait aussi. Ça fait partie de la vie des groupes, mais des groupes humains, c'est normal.
Bah c'est pour ça que l'histoire est jolie, et c'est pour ça que le public continue à vous suivre aussi, hein, bien sûr. Parce que cette histoire,
c'est vrai qu'ils sont
elle
bienveillants. Oui.
On va écouter Les Nuits Parisiennes, si ça vous va.
Très
et puis
bien.
Préparez-vous, parce qu'on finira cette émission avec un live. Et si ça vous va, si vous êtes OK, moi j'adorerais que vous jouiez Ton Invitation.
Ah ouais.
Ouais, ça va ?
Ouais.
Allez, je leur laisse le temps de réfléchir, et pour le moment, c'est Les Nuits Parisiennes. Louise Attaque sur Europe 1.
Je vis toujours des soirées parisiennes, et je voudrais vivre des soirées belles à sienne, et vivre au vent, à feu, à sang, m'ouvrir au sentiment. Commencer par voir si l'amour va s'en plein, et si Lucien, il a perdu son chagrin. Je voudrais t'emmener au-dessus d'un volcan, brûler mes os, faire transpirer mes sentiments.
Europe 1, musique.
Stéphanie Loire.
C'est toujours cette émission spéciale de musique sur Europe 1 pour les 25 ans de Louise Attaque. Et puisqu'on est plongé dans l'histoire du groupe, on va aussi savourer la musique du groupe. On écoute dans un instant la chanson Fatigante, une chanson emblématique de Louise Attaque.
Elle est blanche, fraîche, le matin, elle est douce, tendre, elle est sereine, elle est excellente. Oh, elle dit ce soir, allez, on va danser. Ce soir au matin, couché, ou elle est désespérante.
Europe 1, musique. Stéphanie Loire.
Cette émission spéciale consacrée aux 25 ans de ce premier album qui a une histoire extraordinaire. Le groupe est là, Arnaud Samuel, Robin Fex, Gaëtan Roussel et le producteur historique Marc Tonon qui est très partant pour nous raconter des petites histoires croustillantes. Ça, moi, j'aime bien.
C'est le mémoire.
C'est vous la mémoire collective du groupe, Marc Tonon ?
Oh non, mais ça marque. Hein. On a vécu très intensément quand même ces moments-là. Comment ne pas s'en souvenir ? Puis franchement, c'est difficile de faire autre chose. Parce que ce qu'on ne dit pas non plus, c'est que nous, on n'a jamais imaginé. Quand vous m'avez demandé, je crois, c'est Gordon, quand il est arrivé à Bruxelles, au studio, Gordon Gano, donc des Violent Femmes, qui venait pour produire l'album, il dit, mais tu vas en vendre combien d'albums ? Il dit, parce que moi, je ne savais pas à quel point il avait de l'humour. Il me dit, mais moi, je viens pour disque de diamant, 1 million d'albums. Et j'étais tétanisé, parce que c'est déjà 100 000 albums, c'était pas possible.
Il avait peur qu'il lui demande l'avance, qu'il va en face.
Et en fait, tout ça est venu progressivement. Il y a eu... On a franchi, c'est ce qu'Arnaud disait tout à l'heure. On a grandi ensemble, et le projet a grandi ensemble. Donc on se souvient de tout.
Europe 1, musique.
Et Louise Attaque, c'est une grande aventure. Hein. Bien sûr, il y a cet album-là dont on parle beaucoup, mais il y a eu beaucoup d'autres albums. En 2005, il y a eu À plus tard, Crocodile, avec notamment Si l'on marchait jusqu'à demain.
Longer tes jambes immenses, tout ça, mais comme alors, si de rien est ta démarche, quelle élégance. Si l'on marche jusqu'à demain, on serait peut-être au bout de la France, Marseille, en fait.
En 2011, il y a eu du monde tout autour, notamment.
Il y a du monde tout autour, du monde tout autour, une lumière à presque chaque étage. Là, je m'attache, là, je me rends, là, je m'éloigne, la vie s'écoule lentement. Là, je m'attache.
Et en 2016, il y a eu Anomalie, avec entre autres du grand banditisme.
Ah oui, du grand banditisme, tout a tremblé chez nous. Ça fut comme un séisme.
En dehors de ce concert, de cette journée événement pendant laquelle vous allez célébrer l'album et jouer 28 concerts en une journée, quand vous fabriquez une setlist, que vous défendez des titres sur scène, vous allez piocher un petit peu dans toute cette aventure discographique.
Ah oui, à chaque fois qu'on a eu l'occasion de partir en tournée, c'est-à-dire à chaque fois qu'on a sorti un disque, on est allé piocher dans tout ce qu'on avait. Alors on a eu une période plus acoustique, celle du départ. le troisième disque, on a écouté l'extrait « Si l'on marche jusqu'à demain », Marc Tonon nous avait présenté un producteur américain, Marc Platy, qui est arrivé avec une grande liberté de travail, et ça nous a proposé à nous-mêmes d'être plus libres, donc de toucher à différents sons. Donc derrière, on a fait une tournée qui était un petit peu plus électrique, donc on varie les plaisirs comme ça, mais on pioche toujours dans l'ensemble, oui.
Et même si vous variez les plaisirs, même si vous allez vous balader dans d'autres bulles musicales, il y a tout de même toujours un ADN Louise Attaque. Il y a un son Louise Attaque.
Oui, mais ça c'est le mystère en fait de la création de notre groupe finalement, et peut-être des groupes en général, c'est-à-dire qu'il y a une part mystérieuse, pas forcément analysable, mais qui se retrouve dans l'alchimie et dans le fait des individus qui composent le groupe, et aussi dans le fait de, que ce soit une inspiration mutuelle. Quand elle fonctionne, et quand elle fonctionne, elle donne des choses nouvelles. Louise en est l'emblème, la fille qui s'appelle Louise et qui nous symbolise notre groupe, mais c'est aussi la possibilité de faire des nouveaux albums en fait ensemble.
Et d'ailleurs, Arnaud Samuel, vous parliez de Louise l'emblème, vous parliez aussi de Violent Femme tout à l'heure, de Gordon Gano qui a réalisé ce premier album. Je crois que le nom de votre groupe, c'est un clin d'œil à Violent Femme.
Une déclinaison, oui, une déclinaison.
C'est-à-dire
Violente, ça a donné Attaque et Femme, ça a donné Louise.
Bah voilà, ça tombe sous le sens, cette histoire, merci. Hein. Vous avez réfléchi à cette histoire de live sur ton invitation pour conclure l'émission?
On accepte.
Ça a germé dans votre esprit ou pas? Merci beaucoup pour ce moment.
Merci pour l'accueil.
Et puis je vous laisse vous installer, on va finir en beauté. Un live de Louise Attaque sur Europe 1. Ton invitation, merci beaucoup Marc Tonon.
Avec plaisir.
Merci beaucoup, Marc. Louise Attaque.
Merci.
Europe 1, 16h-17h, musique.
J'ai accepté par erreur ton invitation. J'ai dû me gourer dans l'heure, j'ai dû me planter dans la saison. Si j'ai confondu avec celle qui sourit pas, mais celle qui est belle, bien entendu. Et qui dit belle dit pour moi, tu sais, j'ai pas toute ma raison.
Une émission spéciale de musique ce soir, puisqu'il s'agit de replonger dans le rendez-vous que nous avions donné à Louise Attaque à l'occasion des 25 ans de leur tout premier album légendaire. Je vous propose d'écouter un des titres de cet album que j'aime beaucoup, qui s'appelle Toute une histoire. Un petit coup d'œil dans le rétro sur Europe 1.
Europe 1. Europe 1, musique.
Stéphanie Loire.
Bienvenue sur Europe 1, c'est Musique qui entame sa deuxième heure. On vient de terminer une première partie de l'émission spéciale avec le groupe Louise Attaque au complet réuni pour célébrer les 25 ans du premier album légendaire. Mais là tout de suite, je vous propose une plongée dans une autre émission spéciale qui date du 12 mai dernier. Une émission donnée à l'occasion de la sortie du très beau nouvel album de Mathieu Chédid intitulé Rivalité. Il était accompagné de sa bassiste Gail Ann Dorsey, l'une des plus grandes musiciennes du monde. Je vous propose de plonger la tête la première dans cette émission avec M sur Europe 1.
Mesdames et messieurs, bienvenue au baptême de Monsieur.
Hey, je suis un machista. Ensemble, avec macho, macho, machista, macho, macho. Toi qui me donnes des ailes,
macho, macho.
C'est beaucoup de tubes. Bravo à Nicolas Baudin, la réalisation, qui s'est fait plaisir avec ce medley incroyable. M nous revient avec un 7e album studio intitulé Rivalité.
Rivalité. Être l'un et l'autre sans rivalité.
Bonjour Bonjour M, bienvenue sur Europe 1.
Bonjour.
Vous êtes accompagné de votre bassiste sur cet album, la talentueuse Gail Ann Dorsey, qui a notamment œuvré aux côtés de David Bowie, de Lenny Kravitz, de Tears for Fears. Au programme de cette émission, des secrets de fabrication de cet album Rivalité, du live aussi, hein, puisqu'on aura la chance d'entendre M nous interpréter ses titres, accompagné par Gail Ann Dorsey, si vous êtes d'accord bien sûr.
Toujours d'accord.
Et puis, on ira explorer vos souvenirs, votre âme d'enfant, vos rêves et votre réalité. Est-ce que vous êtes prêts? Alors c'est musique qui démarre.
Europe 1, musique. Stéphanie Loire.
Le 3 juin, votre 7e album studio, une œuvre qui inspire clairement la joie. Pour avoir eu le privilège de vous voir sur scène aux Folies Bergères, on sort de ce spectacle avec le sourire. C'est une œuvre qui a été pensée pour ce retour à la liberté, après ce qu'on a vécu dans l'humanité, dans le monde.
Après, c'est marrant, une œuvre, ça fait toujours, ça impressionne une œuvre.
Ouais, disque, album, opus.
Oui, c'est l'envie effectivement de... C'est un retour à la vie, quoi, après tout ce qu'on a vécu. C'est une façon de tirer peut-être les gens et nous-mêmes vers le haut aussi, vers la lumière, vers la musique, vers la bonne vibration, vers la poésie. L'idée de vivre poétiquement, entouré de musiciens et d'âmes magnifiques et tout ça. Donc c'est vraiment amener les gens vers un monde un peu plus rêvé comme ça, mais bien réel.
Un album pour lequel vous êtes très très bien entouré, on viendra un petit peu sur vos musiciens, mais à vos côtés avec nous sur Europe 1, Gail Ann Dorsey. Alors, si vous ne la connaissez pas, c'est l'une tout simplement des meilleures bassistes du monde. Vous avez collaboré avec Bowie, David Bowie, avec Tears for Fears, avec Lenny Kravitz, avec beaucoup d'autres artistes. Et vous êtes une artiste complète, parce que vous n'êtes pas que bassiste, vous avez une voix exceptionnelle. Comment s'est jouée la rencontre entre vous deux?
We had a mutual friend,
on avait des amis en commun ici en France.
I was aware of Matthew's work, but,
j'étais attentive au travail de Mathieu depuis longtemps, depuis qu'il a commencé, depuis son album que j'appelle l'album rose, celui avec la pochette rose. Mais je suis venue à Paris l'année dernière pour être avec mon partenaire ici et je cherchais juste un petit espace de travail, un endroit pour installer mon ordinateur et travailler sur des chansons parce qu'on essaye de créer un nouvel album ensemble. Et quelqu'un prénommé Mathieu nous a gracieusement offert de pouvoir utiliser ses studios parisiens pour travailler. Donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Je crois que ça faisait un mois que j'y travaillais avant qu'on ne se voit vraiment et qu'on se rencontre. Je suis restée bien plus longtemps, oui, c'était écrit. C'est quelque chose qui est tombé du ciel, que tu n'attends pas. Et aujourd'hui, je suis là. Et c'est comme un rêve.
Sur cet album, vous avez collaboré notamment avec John Baptiste.
Oui.
Enfin, c'est John Baptiste, oui. Ici, il est assez peu connu. Enfin, les Grammy Awards ont fait la lumière sur lui, mais c'est un immense jazzman. C'est aussi un musicien. C'est une dream team autour de vous.
Oui,
là,
oui, alors c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas du tout justement forcé, quoi. C'est pas un mariage forcé, comme on dit. C'est vraiment des gens que je croise dans ma vie, un peu comme des anges, hein, même. Parce que c'est aussi un musicien hors du commun. John Baptiste vient de la Nouvelle-Orléans. C'est un chanteur aussi incroyable. Il a gagné même d'ailleurs l'Oscar pour la musique Soul du film de Pixar.
Pixar, magnifique.
Toute la partie de jazz là, qu'il a composée et chantée. Donc il était là pour se reposer pendant 3 jours. Je lui prêtais ma maison de campagne et je voulais pas l'embêter forcément, mais puisqu'il était en jet lag, on s'est retrouvé la nuit dans mon studio et il s'est mis à pianoter, John Baptiste, en faisant des cris de joie parce que c'est un mec vraiment hors du commun.
C'est fou ce que vous racontez là.
Et on a passé deux nuits blanches à faire de la musique et il s'est mis à jouer sur mes chansons, mais d'une manière totalement spontanée et inspirée, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment un génie de la musique pour moi. Donc voilà, oui, j'ai eu des rencontres comme ça, vraiment entre rêve et réalité, là, on peut le dire.
Ce jour-là, à perdre Kai, à perdre Liane, à perdre Mur, en mille milliards de voix, j'étais partout.
C'est un album qui a été enregistré à domicile dans votre propre studio. C'est important le lieu dans lequel on enregistre un album. Est-ce que ça donne une couleur, une empreinte à la musique ?
Voilà, moi j'ai toujours enregistré mes albums la plupart du temps dans mes maisons, où je me fais un studio pas loin de la maison. Comme ça, on mélange la vie et la musique, parce que tout ça est très lié. Et c'est souvent dans des lieux de campagne aussi. Alors on n'est pas loin des arbres, des oiseaux. Donc l'inspiration de la nature est comme ce sens dans cet album, je crois, parce que j'étais vraiment dans cet environnement. Et bien entendu que la vibration d'un lieu change tout. Et ce nouveau studio que j'ai depuis quelques années est vraiment un temple de la musique, quoi. Et c'est vrai qu'on a des... Oui. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai rencontré la plupart de ces grands musiciens aussi, parce que ce lieu inspire des grandes choses.
J'évoquais la poésie qui transpire dans cet album et dans vos textes en général. La poésie, c'est une langue dont vous faites usage depuis des générations. Dans votre famille, votre grand-mère, la romancière et poète André Chédid, invoquait déjà la poésie comme levier de liberté.
Nous sommes tous pris dans des quantités, je pense, de barrières et de prisons et de cloisons. Et je crois que la poésie essaye de percer tout cela. Alors je crois que la poésie est un levier de liberté aussi.
La poésie comme levier de liberté, c'est une pensée qui conditionne notre existence.
Maintenant, elle a l'art de la formule. Avec trois mots, elle te fait un monde. Et c'est ça, oui, j'ai cette chance. C'est un héritage, hein, c'est une transmission, c'est la famille, c'est une lignée. Il faut être à la hauteur d'ailleurs de cette lignée, ce qui n'est pas simple, parce que c'est quand même d'une grande force. Les mots de ma grand-mère, entre autres. Mais je pense aussi à ma mère, je pense aussi à toute la famille qui me... C'est quand même une chance et une bénédiction d'être entourée d'amour et d'une famille aussi inspirante, quoi.
Et talentueuse, en effet. Rivalité, c'est le nom de cet album. C'est aussi celui d'un titre. Si vous êtes OK, parce que vous étiez d'accord sur le principe du live, on pourrait éventuellement vous entendre le jouer en live sur Europe 1, Rivalité.
Bah oui, pour de vrai.
Voilà. Je vous laisse vous installer. Mathieu Chédid sur Europe 1 avec Gaëlle-Anne Dorsay. On vient de les entendre en live. Merci beaucoup. J'espère qu'on aura l'occasion d'en entendre d'autres. Vous découvrez peut-être cet album. Peut-être que vous allez les voir sur scène. Ben, sachez que vous allez passer un bon moment. Vous faites Libergère. Vous êtes un petit peu échauffé. Vous avez fait quelques concerts et c'était complètement fou. Vous deux, il y a une alchimie sur scène. Il y a quelque chose qui s'opère.
Ben, c'est beau avec Gaëlle-Anne parce que c'est vraiment j'ai l'impression qu'il y a un équilibre. Moi, Gaëlle-Anne est bien terrienne. You are on the earth, you know, with your bass. Donc elle nous pose vraiment sur la terre. Et puis moi, je suis un peu trop dans les airs parfois. Mais l'équilibre de nous deux crée vraiment cette espèce de verticalité musicale magnifique, quoi.
Très belle verticalité musicale. On vient d'entendre Rivalité. Vous dites « Quand je rêve, mon âme se révèle ». Le rêve, c'est le terreau de votre créativité.
Oui, le rêve, c'est l'inconscient, c'est le monde invisible parfois, et donc c'est là où se trouve l'inspiration. L'inspiration, elle est dans quelque chose qu'on ne maîtrise pas, parce que ça serait trop facile.
Vous vous rappelez de vos rêves le matin ?
Parfois.
Vous les notez ?
Rarement.
Vous voulez vous allonger sur un divan ? Je facture 80 euros l'heure. Votre réalité, c'est aussi réaliser vos rêves d'enfant ?
Bah oui, parce que c'est ce que je fais depuis toujours, et même inconsciemment. L'enfance est totalement présente, encore plus aujourd'hui, sachant que je suis père depuis peu de deux jeunes enfants. Donc ça me permet d'être encore plus connecté à ce monde-là. Et c'est une source d'inspiration extraordinaire.
Vous évoquez vos jeunes enfants dans cet album, qui est conçu d'ailleurs en deux parties. Il y a des titres plus dansants et d'autres qui sont plus introspectifs, on va dire. Il y a le titre « Petit homme ».
Toi qui passes ta vie.
C'est une chanson qui est dédiée à votre fils ?
Oui, exactement. Exactement, parce que je suis fasciné par cette liberté, ce monde justement où il n'y a pas de frontière entre rêve et réalité, c'est évident chez les enfants. Il y a bien des moments où ils rêvent et en fait, ils mélangent vraiment les deux mondes. Il y a l'émerveillement permanent, il y a la pureté, il y a pas le mental est moins présent, donc ils ont beaucoup plus de place pour l'imagination.
C'est quelque chose qui existe encore chez vous, ça, non ?
Oui, complètement. Ouais. Mais je prends beaucoup sur eux. C'est-à-dire que souvent, on a l'impression d'apprendre aux enfants qui ne savent rien. Et moi, c'est inversé pour moi. C'est-à-dire que j'ai l'impression de désapprendre et de réapprendre avec mes enfants qui me remettent sur le droit chemin.
c'est, vous l'évoquiez, la transmission dans votre famille, cette famille aussi qui est créative, vous partagez, vous avez ça en commun. Au jeu des sept familles, il y a votre père, Louis Chédid, qui d'ailleurs revient avec un nouveau projet musical qui s'appelle En Noir et Blanche.
Ouais, magnifique, magnifique.
Un très beau projet qui revisite son répertoire en piano-voix avec Yvan Cassard, qui est un pianiste, un chef d'orchestre, un arrangeur de génie qui a collaboré avec les plus grands, Johnny Hallyday, Claude Nougaro, entre autres.
Et c'est vrai que cet album et c'est une façon de retrouver l'essence des chansons de mon père, qui sont quand même sublimes, et de les entendre comme ça, purement, avec en plus ce côté virtuose du piano, et très créatif à la fois, parce qu'il fait ce qu'on appelle des pianos préparés, c'est-à-dire qu'il fait que les pianos deviennent percussifs, deviennent un peu plein d'instruments à la fois.
Je vous laisse le découvrir sur le titre Ainsi soit-il.
Comme il est dit dans le scénario, gros plan de toi dans ton berceau. Comme il est précisé dans le script, lumière tamisée, flou artistique.
Voilà, l'album de Louis Chédid et Yvan Cassard en noir et blanche sera publié le 9 septembre prochain. Dans cet album, le vôtre aime Rivalité, il y a le titre « Mais tu sais ». Avec Fatoumata Diawara, qui est une chanteuse, une comédienne, une autrice, ouais, une compositrice, une interprète, encore multitalent malienne, avec qui vous aviez déjà collaboré sur la Momali.
Bah oui.
C'est une histoire qui s'inscrit dans le temps. Là, oui. Pour vous, c'est important. Il y a un côté famille que vous recréez aussi.
Famille, c'est vrai c'est ma sœur malienne, parce que on se dit souvent ça quand entre maliens, c'est très fraternel. Il n'y a pas ce côté clivé de notre culture qui va vraiment dire on est la famille machin, la famille truc. En Afrique, c'est beaucoup plus vaste. Et c'est vrai c'est très fraternel entre nous. Et c'est aussi comme j'ai la chance de rencontrer des grands artistes. Et Fatoumata Diawara en fait partie aussi. Comme aujourd'hui avec Gaëlan, c'est vraiment être accompagné par des belles âmes et des grands musiciens, c'est ce qu'il y a de plus. C'est un beau cadeau.
Ce lien très fort que vous avez avec la culture africaine, Mathieu, sa musique, la kora, il est né comment ce lien-là ?
Oh, il est né il y a longtemps, quand j'ai fait un premier voyage au Mali, à Bamako. C'était avec Amadou et Mariam qui m'avaient amené là-bas pour...
Et qui vous avez collaboré ensuite.
Exactement, qui sont mes premiers amis maliens. Et c'est comme ça que j'ai rencontré toute une culture. Et donc voilà, c'était... vraiment quelque chose de... Il y a eu un avant et un après quand j'ai mis le pied sur la terre rouge malienne. Et donc à partir de là, j'ai rencontré plein d'autres musiciens. Et ça a été évidemment extraordinaire, puisque c'est des gens... C'est très sacré la musique là-bas. Et il faut savoir que Toumani Diabaté, grand griot, qui joue de la kora, etc. Donc pareil, c'est encore une fois... j'ai beaucoup de chance, quoi, parce que je suis tombé sur les plus grands musiciens maliens. Donc évidemment, j'étais ébahi.
Vous avez prolongé cette aventure, il y a eu l'album La Momali, et d'ailleurs vous jouez sur scène actuellement encore avec Gail Anne un titre, Mani Toumani.
Oui, parce que c'est une chanson qui ça nous dépasse, les chansons, on ne sait pas vraiment ce qu'elles vont projeter ou se dire, comment elles se diffusent par la suite. Et cette chanson d'ailleurs, Mani Toumani, qui était une célébration et une chanson pour Toumani Diabaté. En plus, première fois que Sidiki Diabaté, son fils, chantait sur un enregistrement, depuis il est devenu une star.
Qui est une véritable star au Mali, qui remplit des stades.
Et c'est la première fois qu'il osait chanter sur un disque, sur une musique. Et voilà, cette chanson a pris vraiment une ampleur. Donc, et puis elle est puissante, elle est belle. Et avec la voix de Fatou d'abord, après de Sidiki, et puis maintenant de Gaëlan, c'est quand même génial, parce que c'est une transmission. Et là, ça donne encore un autre éclairage, parce qu'avec la voix de Gaëlan, ça donne un côté encore universel, mais pas forcément africain, plus universel encore.
Eh bien, on l'écoute en live, ce titre, avec Gaëlan d'Orsay et M sur Europe 1.
Musique. Stéphanie Loire sur Europe 1.
Une émission spéciale sur Europe 1 entièrement consacrée à M, ce nouvel album Rivalité, en présence de la bassiste de talent, la voix incroyable Gail Anne d'Orsay. Merci d'être avec nous. Votre fils, pour revenir à cet album, on le décortique, vous le découvrez peut-être vous aussi, et je suis sûre que vous allez tomber accro, comme je le suis. Votre fils Tao, il a une place particulière sur ce nouvel opus, parce qu'il a inspiré aussi le titre Dans le Living.
Oui. Ouais. Oui, il a inspiré plein de choses, mais c'est vrai que il était un peu... C'était l'été dernier, là, il était au taquet avec sa tétine d'ailleurs, c'est là qu'on voit qu'on est accro déjà très jeune à des trucs. Et donc quand il n'a pas sa tétine, il demande où elle est tout le temps. Elle est où ma tétine? Ça nous rendait un peu dingue. Et puis parfois, il demandait elle est où maman? Enfin bref, il était un peu obsessionnel. Et donc effectivement, la réponse est dans le living.
Et on l'entend dans le living. La question, c'est est-ce que Tao va percevoir des droits d'auteur sur cette chanson?
On va en parler après, le temps qu'il grandit.
Des chansons comme celle-ci, elles sont, quand vous les fabriquez, vous pensez à la scène, parce qu'elles sont taillées pour la scène.
Oui, je pense à la scène, je pense au côté vraiment échange avec le public. Je l'ai même pensé presque dans le living comme un gimmick pour le public déjà.
Et puis que vous mettez en place d'ailleurs.
Oui, complètement. Bah oui, parce que je pense à ça. Je savais que j'allais faire des concerts avant même de sortir l'album, donc j'ai pensé à ça. Je me suis dit, tiens, il faut trouver des chansons un peu. Gaëlan parle du Rocky Horror Picture Show, c'est ce genre de spectacle un peu interactif. Mais c'est intéressant d'avoir sa vision du concert, parce que pour elle, c'était ce côté aussi francophone malgré mes influences un peu pop.
Et c'est très différent des concerts auxquels vous êtes habitués, Gaëlle-Anne ?
Oui, because of the participation.
Oui, à cause de la participation. C'est comme si le public faisait partie du groupe, faisait partie de la scène, de tout. Ce n'est pas juste, on est là pour jouer pour eux. On fabrique le spectacle ensemble. Et c'est vraiment une très belle énergie, c'est beau.
Et c'est vrai que c'est plus qu'un concert, c'est un spectacle, vous interagissez beaucoup avec le public. Parfois même c'est du stand-up, vous êtes hyper drôle. Moi quand je suis allée vous voir sur scène, vous êtes tombée ce soir-là.
Ah là là.
Et vous en avez fait une blague et c'était super drôle. Et je me disais, en fait vous n'êtes pas que musicien, vous êtes un stand-upper en fait.
Mais ça ne marche que sur scène, c'est-à-dire que c'est pas que je suis pas drôle dans la vie, je suis pas cyniste non plus. Mais c'est très parti, ce décuple sur scène. Ouais.
Pour aussi le côté interactif et revenir aux enfants, vous faites monter des enfants sur scène?
Ça arrive, ouais, ça peut changer. Hein, tu sais, parfois, c'est des enfants. À une époque, j'avais fait un truc qui s'appelait le gimmick et je demandais à un artiste de monter sur scène. Et c'était le petit quart d'heure warholien où les gens venaient sur scène. Je leur demandais la couleur qu'ils préféraient, les lights qu'ils préféraient, les machins, quelles chansons ils avaient envie de jouer, est-ce qu'ils avaient envie d'un instrument. Alors, je leur passais l'instrument et nous, on improvisait, on l'accompagnait en direct. Et on faisait des morceaux incroyables. Et parfois, c'était très, très chaotique et tout pourri. Mais c'est ça qui est bien aussi, c'est ce côté.
C'est
hyper
le spectacle vivant.
Ouais.
Ouais. Sur Mogodo, je crois que c'est Mogodo, on apprend une chorégraphie.
Ouais, t'as vu comme elle est complexe. Hein.
Elle est hyper complexe. Alors, moi qui ai un problème de coordination des mouvements, franchement, j'ai galéré. Mais au final, c'était vraiment chouette. On parlait de l'enfance. Vous avez cité dans une interview, je ne sais plus laquelle, Edgar Morin, qui dit qu'il ne faut jamais oublier que nous avons tous les âges en nous, que ça dépend des instants, de l'humeur, des périodes, mais que rien n'est figé. J'aime beaucoup cette idée. À ce moment précis, là, vous avez quel âge?
J'ai 35.
C'est cool comme âge. Quel âge vous avez dans votre tête, Gaëlle-Anne?
18.
35 ans, 18 ans, ça fait une bonne moyenne. Je pense que vous êtes en pleine forme, peut-être suffisamment pour interpréter un autre titre de cet album qui s'appelle Fellini en live sur Europe 1.
Génial, là j'ai 8 ans et demi alors.
Le monde est devenu fou pour de bon. Il n'y a plus de mélodie, plus de saison. Sur son balcon, il fait partie des plus grands de mon panthéon. Depuis que je suis petit garçon, et puisque tout n'est qu'illusion, tout n'est qu'imagination. Visiteurs du soir, bonheur, un petit goût d'Italie, un goût de Rimini, d'enfance au paradis. Le monde est devenu fou pour de bon. Où est la poésie, le sens et le son? Quand je manque d'art, je manque d'imagination. Dans mes rêves, Fellini. Oh la douce, la belle mélancolie. Dans mes rêves, Fellini. Je n'ai pas un soupçon de nostalgie. Dans mes rêves, Fellini. J'ai juste 8 ans et demi.
Live sur Europe 1, M et sa bassiste Gail Ann Dorsey, un titre qui figure sur l'album Rivalité. On reste ensemble, c'est la dernière partie de cette émission.
Europe 1, musique.
Stéphanie Loire.
Une émission particulière de musique ce soir, puisqu'il s'agit de voyager dans le temps, de se replonger dans une émission exceptionnelle au cours de laquelle était intervenu M pour nous présenter son tout dernier album Rivalité. Sur cet album, un titre que j'aime beaucoup, qui fait appel aux souvenirs d'enfance de l'artiste pop. Je vous propose de l'écouter tout de suite sur Europe 1, c'est Mogodo.
Le petit Mathieu fait dodo dans son lit tout chaud.
Musique. Stéphanie Loire sur Europe 1.
Une émission spéciale avec beaucoup de talent à l'intérieur sur Europe 1 dans musique ce soir, puisqu'il s'agit de revivre ensemble le rendez-vous que nous avions eu avec M et sa bassiste Gail Ann Dorsey à l'occasion de la sortie de son album Rivalité. Une émission entre rêve et réalité sur Europe 1 avec M, Mathieu Chédid et Gail Ann Dorsey pour la sortie de l'album Rivalité. Une grande tournée aussi qui vous attend. Mmh. Bon, je suis désolée de dire le chiffre, mais je crois que c'est 200 dates.
je sais pas compter jusque-là, je crois.
Bon. Beaucoup de dates, en tout cas. Il y a une préparation physique pour entamer une telle tournée. Je regarde Gail Ann, je regarde M. Gail Ann qui est sur scène tous les soirs à la basse.
Pour moi, du yoga et beaucoup de stretching. La basse est très lourde.
C'est tout.
Pour ma voix, je fais des exercices. En fait, depuis cette semaine, j'ai un nouveau professeur en Zoom depuis New York. Je prends des nouvelles leçons de chant.
Ah, donc vous prenez des leçons de chant alors que vous avez un parcours, un CV musical impressionnant, une carrière incroyable. On apprend, on continue d'apprendre sans cesse dans ce métier.
J'apprends toujours, surtout pour préserver ma voix. C'est le plus important de l'entretenir. Je dois faire attention.
Et vous, M, une préparation physique, des cours de chant, qu'est-ce que vous...
Non, alors moi, j'ai mon grand ami Ossine, avec qui me suit sur la tournée, avec qui on partage plein de choses et une vision aussi poétique, artistique de la vie et de la musique, et aussi ce truc. On a un vrai programme, quoi. C'est-à-dire que je pense que quotidiennement on peut dire je vais aller courir, faire du footing.
De sortie de route, pas d'alcool, pas de fête.
Alcool, pas vraiment. J'aime bien le vin, un bon verre de vin, ça fait pas de mal. Pas trop de fête non plus, mais la fête, je la fais sur scène, je la fais avec mes amis. On célèbre toute la journée, donc c'est vrai qu'on n'est pas en manque de fête. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de rituel, en fait, bizarrement. C'est vrai que le seul moyen de tenir en tournée, c'est vraiment d'organiser toute sa journée pour le soir, en fait, et de garder quand même l'énergie. Mais c'est vrai que le sport, on pourrait se dire entre les 2 heures de concert plus le sport tous les matins, ça fait beaucoup.
Ouais.
Mais c'est ça qui me fait tenir.
C'est le pilier.
Ouais.
Je donne quelques dates de cette tournée. Le 20 juin, vous démarrez au Festival des Nuits de Fourvière à Lyon, dans ce cadre magnifique. Ouais. Vous serez le 26 juin à Solidays à Paris, le 30 juin au Festival Garo Rock Expérience à Marmande, le 16 juillet aux Vieilles Charrues. Tout l'été, les festivals, déjà. C'est le tour de chauffe.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai.
Et ensuite, les Zéniths. Et les Zéniths, bon, quelques dates. Le 30 septembre à Amiens, le 6 octobre à Saint-Étienne, le 12 octobre à Nancy, du 20 au 23 décembre au Zénith de Paris, et le 1er, 2 et 3 juin à l'Accor Arena de Paris. Voilà, je ne vais pas faire les 200 dates. Je vous vois avec des yeux énormes en train de me regarder. On va faire tout ça. Ouais, vous allez faire ça.
Ouais.
Le côté festif aussi sur scène, dans Rivalité, il y a de nombreuses chansons qui sont taillées pour la scène. Mmh. On en parlait tout à l'heure. Je pense au funk complètement déjanté de Mo Godot, que j'adore. Ce mot, il a quelque chose de très addictif. Moi, depuis, je parle Mogodo. Avec mon chien, par exemple, j'échange en Mogodo.
Ah, c'est bon, ça.
Avec Mogodo sur différents tons. Mogodo, Mogodo, Mogodo. Ça veut dire quoi, Mogodo?
Mogodo, c'est mon surnom d'enfant, de bébé pratiquement. C'est ma nounou qui m'appelait comme ça. Mon père a entendu ça un jour et il m'a fait cette petite berceuse dans un album qui date de 1974. Donc il y a Mathieu Mogodo, qui est une sorte de chanson qui... Et c'est vrai que je cherchais à ce moment-là, il y a quelques mois, un prénom pour mon enfant intérieur. Et je trouvais pas vraiment. Et puis Mogodo est revenu comme une évidence, parce que je voulais en plus quelque chose comme une onomatopée, quelque chose de très sonore comme ça. Et Mogodo s'est imposé. Et c'est vrai que c'est... J'aime bien les mots comme ça, entre guillemets, inventés, mais qui deviennent des évidences.
C'est agréable d'inventer des mots, de jouer avec la langue française, c'est quelque chose que vous aimez?
J'adore, et surtout inventer les mots, c'est génial, comme machistador. Tu sais, quand parfois les gens disent machistador comme une évidence, alors que c'est une contraction de rivalité, des mots comme ça qui sont des mots valises, évidemment, mais qui finissent... Alors, en fait, ça devient intéressant quand ça prend du sens et quand ça a du vécu.
Ouais.
Sinon, c'est un peu sans intérêt.
Peut-être que dans quelques années, Mogodo sera dans la Larousse.
Ça serait joli.
Qui sait ? Se réinventer à chaque nouvel album, c'est le cœur de votre métier, à tous les deux.
Ah, c'est même indispensable et vital. Je peux pas imaginer refaire les mêmes choses. Et même si il y a... En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est garder une lignée, garder un cap. C'est comme M, je veux dire, ça reste M, mais il change de couleur, il change de look, il change un peu de forme, mais ça reste quand même sur le même chemin. C'est ça qui m'intéresse, c'est de garder une cohérence, mais à chaque fois d'aller expérimenter de droite à gauche et chercher, hein, et surtout colorer aussi ma musique par l'humeur et l'état dans lequel je suis au moment où je le fais.
Et vous parlez de couleurs et de réinventer ce personnage M. C'est vrai qu'il a évolué. Là, dans Rivalité, vous êtes un super-héros au volant d'un bolide, vêtu de cette couleur pourpre qui a un véritable sens, puisque c'est le mélange de deux couleurs qui sont le rêve et la réalité.
Ouais, le bleu et le rouge, ouais.
Le bleu et le rouge, d'ailleurs, vous êtes vêtu de cette couleur-là.
Je suis obsessionnel avec ça.
Ouais. Ouais, mais c'est-à-dire, même en civil, hors scène, vous portez
oui,
du pourpre
vrai,
en ce moment.
Vrai. Je dois avouer que le violet est partout, parce que c'est... Ça marque des périodes de ma vie. Alors évidemment, là,
comme un peintre, vous avez des périodes.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais alors évidemment, là, je suis en violet parce que je sors d'une radio ou d'un concert. Après, si je déconnecte de tout ça, j'arrive à me retrouver avec moi-même.
Elle a mis le pyjama, il est violet ou pas?
Écoute, j'ai pas le slip violet encore. Non.
J'aurais adoré avoir cette image. Vous avez composé un morceau qui s'appelle Le Nombril, qui est magnifique dans cet album. On en écoute un extrait, on en parle après.
J'habite la grande ville du monde. Ça peut paraître juvénile, mais plus mon amour vagabonde, aussi fatal fut-il pour mon petit nombril.
Votre après-midi en musique, c'est avec Stéphanie Loire sur Europe 1.
Nos petits nombrils.
Qu'est-ce que vous aviez envie de raconter avec ce titre-là?
Oui, c'est cette espèce de paradoxe dans le monde dans lequel on est, où on est très nombriliste quand même. En plus, c'est aussi des chansons qui parlent de ce monde virtuel des réseaux sociaux.
On se met sans cesse en scène sur les réseaux sociaux.
Oui, on est là, les autopromos de chacun dans tous les coins. Et d'un autre côté, on voit bien qu'on est tous reliés aussi. Ce nombril nous relie tous aussi. Et donc, c'est un peu un constat de dire que c'est passer peut-être de la compétition à la coopération. Moi, je crois beaucoup à ça. Je crois que le monde de la compétition est un monde ancien et qu'il faut absolument se relier un maximum parce que tout est relié et qu'on n'a plus le choix.
Mathieu Chédid, président. Ce morceau-là, le nombril, vous l'avez composé sur le piano blanc que Michel Berger avait utilisé. Bravo. Pour la groupie du pianiste. Waouh.
Ouais. Non, c'est un hasard total, mais c'est vrai que j'étais chez mon grand ami Raphaël, qui est le fils de Michel et de France, et c'était. J'étais dans la chambre où il y avait ce piano blanc, donc c'était. Je peux pas faire mieux, et donc. Évidemment, j'allais dire mal réveillé un matin, ce qui m'arrive souvent, je me mets sur ce piano à me dire je peux pas passer à côté, quoi. Et ces accords très majeurs d'ailleurs me tombent sous les doigts et la mélodie de cette chanson est arrivée instantanément. Ouais.
Est-ce que les instruments ont une mémoire d'après vous, par exemple un piano, ouais, sur lequel on a composé des chansons aussi légendaires que celle-ci?
Ah oui, je pense que les objets ont une âme. C'est comme un bon vin, une guitare. Ça peut plus ou moins bien vieillir. Et une guitare qui... Le bois se musicalise.
Ah ouais.
Parce que la vibration s'intègre dans la mémoire du bois. Et quand tu prends une guitare qui a vécu et qui a bien joué, elle sonne 100 fois mieux. Tu vois, par exemple, moi j'ai ma Stratocaster série L de 1964, qui est ma guitare fétiche que j'ai depuis mes débuts, qui a fait tous mes concerts. Donc là, tu disais 200, mais alors là, tu peux en rajouter encore 600 peut-être. Donc évidemment, quand c'est vraiment son instrument et toute l'histoire qui va avec, ça prend une ampleur incroyable. Et pareil avec la basse de Gaylan, la Stingray, comment
oui,
on dit
Stingray, Music Man, Stingray, Ernie Ball.
Et alors, elle a fait donc tous les grands concerts dont on parlait avec cette basse. Hein.
I play this bass with every.
J'ai joué avec cette basse avec chaque artiste avec lequel j'ai collaboré, et je l'ai utilisée sur chaque enregistrement que j'ai fait. Elle est spéciale, c'est comme mon compagnon, ma meilleure amie.
Quelle histoire. D'ailleurs, on en profite puisque les instruments ont une âme, pour saluer tous les instruments qui nous écoutent sur Europe 1.
Évidemment.
Ils sont nombreux,
évidemment.
Les pianos, les banjos, les guitares et les basses. Votre tournée précédente, vous étiez plutôt en solo, avec des automates. Là, vous renouez avec la famille, le groupe, les musiciens, la joyeuse bande. Alors, pas n'importe lesquels, bien sûr, Gail Ann Dorsey, l'une des plus grandes bassistes au monde. J'évoquais tout à l'heure John Baptiste, Maxime Garout, un percussionniste aussi qui s'appelle Fabrice Colombani, que vous appelez Cubain, me semble-t-il. C'est très différent, j'imagine, l'histoire de vivre une tournée en solo. Et alors, le côté colo, comme ça, c'est quelque chose qui vous plaît?
Bah oui, parce qu'en plus, là, on parle de Maxime Garout, qui est vraiment un musicien que j'ai rencontré, on avait 12-13 ans. C'est le premier batteur de M, Maxime Garout. C'est un ami de 35 ans. Alors Fabrice Colombani, je jouais avec lui à l'époque de Sinclair, quand j'étais guitariste pour Sinclair.
Donc au tout début, quoi.
Oui. Donc c'est des gens que je connais depuis très longtemps. Et il y a aussi d'ailleurs Corentin Pujol, qui est un espèce justement de John Baptiste français, quoi. Il joue vraiment divinement bien. Mais lui qui est de la jeune génération, que j'ai découvert grâce à Maxime. Et puis Gaëlan qui est venu jusqu'à nous aussi. Donc c'est vrai que c'est un retour au groove, à la musicalité. Et c'est vraiment un niveau très haut.
Et voilà, un niveau très haut. Et puis beaucoup de joie. Voilà, vous allez aller voir sur scène Mathieu Chédid, Gail Ann Dorsey, toute cette joyeuse troupe pour défendre cet album Rivalité et aussi vos nombreux tubes. Je donne encore d'autres dates. Hein. Vous serez le 29 novembre au Zénith de Toulouse, le 15 novembre au Zénith de Bordeaux et le 19 octobre à Nantes, entre autres. Un dernier live pour conclure, comme The Cherry on the Cake, la cerise sur le gâteau.
Allez, super.
Ça vous va? Puisqu'on a la radio dans ta radio, ça me semble être assez évident.
Une mise en abîme.
On y va. C'est M sur Europe 1 avec Dans ta radio.
Si loin de tes yeux, de ton univers, quelque part sur cette terre. Je cherche un moyen de communiquer. Depuis que l'orage est passé, je sentais bien que mon cœur n'était plus à même de dire des mots comme je t'aime. Faut que je passe dans ta radio, dans ta radio, dans ta radio. Faut que je passe dans ta radio, dans ta radio, dans ta radio. Faut que je passe dans ta radio. Tu scannes les moindres mystères de ce tube FM éphémère. Dans mon cœur, tu captes les moindres.
cette chanson se glisse dans ta maison. Faut que je passe dans ta radio.
Merci beaucoup, M, pour cette émission, pour ce moment. Merci, Gaëlle Anne Dorsay.
Merci.
On va vous suivre de près et puis manger des graines le matin, continuer avec cette belle hygiène de vie pour entamer cette tournée de 200 dates.
Ouais. D'ailleurs, Gaëlle Anne Dorsay, c'est un peu la cerise sur le gâteau, je trouve que c'est bien.
Ouais.
Tu aimes bien cette expression, non? Tu peux le dire? Tu peux le dire? Can you say?
Le cerise sur le gâteau.
Voilà. Et en plus, on apprend à parler. C'est une émission, on échange des tips.
Évidemment.
Anglais, français, thank you very much for this moment. Merci beaucoup.
Merci à toi.
À bientôt.
Merci
au
beaucoup.
Revoir. C'est musique sur Europe 1, comme tous les soirs de l'été jusqu'à 22h. Et le 12 mai dernier, dans Musique, j'ai eu l'immense plaisir de recevoir un grand artiste, M, accompagné de sa bassiste Gaëlle Anne Dorsay. On a évoqué la sortie de ce nouvel album intitulé Rivalité. Sur celui-ci figure le titre Fellini. Je vous propose de conclure avec lui. J'espère que vous avez passé une bonne soirée sur Europe 1. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures musicales. Demain, pas une émission spéciale, une émission gorgée de soleil, de talents à découvrir et d'artistes de légende. Merci pour votre fidélité et à demain.
Europe 1, musique. Stéphanie Loire.